Une fois de plus, je vais vous parler sur la prière. Ce sera le quatrième volet. C'est terminé. Après, Déjà, je ne pensais pas pour parler quatre fois sur la prière, donc je ne sais pas s'il y aura un cinquième. Mais voilà, j'ai été conduit à vous parler là-dessus. Il y a sûrement une raison. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler de pourquoi, en deux mots, pourquoi prier, pour qui prier, où prier, comment prier. Ça va être long, hein. Je crois que vous avez pris vos tartines, hein. Non, je rigole. Je vais essayer d'être le plus court possible, mais il faut quand même qu'on puisse se comprendre. La première lecture, c'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. » Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Il est vrai que nous sommes souvent inquiets. Ça, c'est dans la nature humaine. Depuis que l'homme a perdu la paix, depuis la chute, la peur est entrée dans le monde et nous voyons dans le livre de la Genèse, comment Adam, lui qui était un habitué de converser avec Dieu, comment Adam a subitement eu peur d'être face à face avec Dieu, car il avait perdu cette complicité avec Dieu. L'inquiétude nous atteint bien souvent, et avec l'inquiétude, il y a les angoisses qui en découlent et nous empêchent de dormir parfois, et ça empoisonne notre vie. Alors, que faire quand nous traversons ce genre de situation dans notre vie? Eh bien, l'apôtre Paul nous encourage à la prière. Oui, voilà, nous y voilà à nouveau. D'où l'importance pour nous chrétiens de prier, d'avoir une vie de prière normale. Une vie de prière normale. Une vie de prière normale, ben, c'est avoir régulièrement une conversation avec Dieu, parce que prier, c'est converser avec Dieu. Et qui dit conversation, ce n'est pas un monologue, c'est qu'on attend aussi quelque part que Dieu nous réponde. Et j'en viens à mon premier point, pourquoi prier? Pourquoi? Et je vous dirai pour tout. On peut prier pour tout. Il n'y a pas de sujet tabou avec Dieu. Si chez nous, il y a des sujets tabous, on ne peut pas parler de certaines choses, tout doit rester secret, mystérieux. Pour Dieu, pas. Il n'y a pas de grands sujets, il n'y a pas de petits sujets, il n'y a que des sujets de prière que nous pouvons exposer librement à Dieu. Je voudrais tout simplement être pratique encore une fois ce matin et vous donner quelques exemples pour nous encourager quand nous nous trouvons parfois dans des situations difficiles. Au chapitre 31 et au verset 6 du Deutéronome, il est dit ceci. Au sujet du peuple d'Israël, « Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer par eux, par les ennemis qu'ils allaient affronter. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Donc c'est un conseil que Moïse donne avant que le peuple entre dans le pays promis. Le peuple d'Israël allait affronter de nombreuses difficultés en entrant dans le pays de Canaan. Et nous, notre Canaan, nous le parcourons chaque jour. Et chaque jour, nous avons besoin d'implorer le secours de Dieu, car face à nos difficultés journalières, nous devons réaliser que Dieu marche avec nous. Et nous avons parfois tendance à l'oublier. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien. Ne vous laissez pas effrayer, disait Moïse. Et c'est la même chose pour nous, chrétiens. Nous avons... Comme le peuple d'Israël, nous connaîtrons des victoires, et nous avons eu des victoires, et nous en aurons encore des victoires, mais aussi, il y a des défaites. Et le peuple d'Israël a eu des cuisantes défaites. Bien souvent, c'était par un manque de prière, par la désobéissance, et si nous connaissons nos défaites, parfois, c'est un peu de notre faute. Alors, demandons à Dieu, dans la prière, de nous accompagner dans notre marche. Et il y a une promesse, il ne nous abandonnera pas. Parfois, on a cette impression que Dieu nous abandonne, c'est plutôt nous qui abandonnons Dieu. Lui ne nous abandonne jamais. Pourquoi prier? Mais prions aussi pour nos besoins matériels. Cela peut être une grande préoccupation pour nous. Nous vivons quand même dans une époque difficile et on entend de plus en plus de gens qui ont vécu plus ou moins à l'aise, qui sont maintenant dans la précarité pour différentes raisons. Il faut dire que le pouvoir d'achat diminuant de plus en plus, quoique à partir du 9 juin, tout va aller bien, parce que j'ai entendu pas mal de promesses, et franchement, je me réjouis d'être le 10, parce que ce sera merveilleux. Nous allons vivre vraiment dans un pays merveilleux. Voilà, ça ce sont les promesses humaines, mais il faut reconnaître que Dieu nous écoute aussi dans nos problèmes journaliers. Jésus nous encourage à le faire et il le dit dans Matthieu chapitre 6, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même à chaque jour, suffit sa peine. Ne craignons pas, Dieu écoute. Dieu nous écoute. Dieu peut et veut pourvoir à nos besoins. Et je peux en témoigner. Dieu a toujours été, même dans les difficultés, à nos côtés. Dieu a pourvu. Ça, c'est quelque chose que je peux dire, que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Prier pourquoi encore? Eh bien, quand on est blessé, je ne parle pas d'un petit bobo, mais je parle des blessures morales, je parle des blessures spirituelles, blessées par une parole blessante que nous avons reçue de notre entourage, une parole blessante même par nos frères et sœurs dans la foi. Et ce sont les plus difficiles à encaisser, bien souvent. Quand frères et sœurs, on se blesse. Et malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, qu'il y ait des problèmes entre chrétiens. Et ça fait mal. Alors, frères et sœurs, ne ruminons pas sans cesse en voulant nous faire justice nous-mêmes, parfois. À cause des blessures occasionnées, on est découragé. Et on a envie de laisser tout là. On a envie d'abandonner la course. On a envie d'abandonner la marche, bien entendu. Et à ce moment-là, c'est le moment de prier. De prier afin que nous puissions recevoir la force. La force de pardonner en frères et sœurs. Car comment aller de l'avant? Comment continuer notre route si nous n'arrivons pas à nous pardonner? Et tout cela se produit par la prière, pour que Dieu nous donne la force d'aller au-dessus des problèmes, au-dessus de la blessure. Jésus dira, Matthieu chapitre 6, au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Seule la prière, frères et sœurs, peut nous donner la force de pardonner à notre prochain. Dieu aime que nous lui disions tout ce que nous avons sur le cœur. Petit souci ou grande inquiétude, ce que nous n'osons peut-être pas confier à quelqu'un de proche, un ami, voire à notre conjoint, nous pouvons sans crainte en parler à Dieu dans la prière. Dieu n'est pas dépassé par aucun de nos soucis. Et des soucis, je crois que nous en avons un tas. On peut les énumérer, des soucis de tout ordre. Nous avons parfois de la tristesse, du chagrin. Nous avons des soucis à cause de la maladie. Nous avons des problèmes familiaux. Et quelle famille n'a pas ces problèmes? Une belle-mère acariâtre, un beau-frère désagréable, une épouse difficile, un mari grincheux. Et je peux citer pas mal de choses au point de vue familial. Mais ces choses-là, nous pouvons les mettre devant notre Dieu par la prière. Car rien n'est impossible à notre Dieu si nous prions. Il peut entendre et comprendre tout. Voilà les sujets pour lesquels nous pouvons prier. Et il y en a d'autres, bien entendu. Voulons-nous entendre une parole forte ce matin de la part de Dieu? Écoutez cela. Dans le psaume 37, au verset 3, il dit ceci, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Confions-nous en Dieu en priant. Délectons-nous de sa présence, il agira et il répondra à nos deux besoins. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Attention, il ne faut pas non plus prendre ça vraiment à la lettre pour certaines choses. Imaginons, je l'ai déjà donné cet exemple, que vous avez besoin d'une voiture et vous vous dites « Seigneur, comment faire ? Je suis en panne avec ma voiture, c'est ce qui m'était arrivé. » Dieu peut pourvoir, mais il ne faut pas dire « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, tu sais que j'aime bien la Ferrari rouge. » qui est là, dans le showroom, et c'est ça que je voudrais. Non, le Seigneur va te donner une Twingo. Je fais encore la publicité pour mon ancien patron. Je touche des royalties. Mais voilà, et le Seigneur donne ce que tu as besoin, mais pas le superflu. Ne soyons pas capricieux. S'il a envie de vous donner une Ferrari, mon Dieu, je ne dirais pas non, mais bon... Il faudrait que je rentre à cache-pied et pour en sortir, je ne sais pas. Dieu nous donne au-delà de nos espérances si nous prions. Je le crois. Je crois que Dieu répond à nos prières et il s'attend à ce que nous lui demandions ce que nous avons besoin. Deuxième point, pour qui devons-nous prier? Bien sûr, nous devons prier pour nos propres besoins. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. On est quand même des êtres humains, on dit « Seigneur, bénis-moi hein, quand même, parce que bon, bénis les autres, mais aussi de temps en temps, une petite bénédiction pour moi. » Mais prier pour les autres, c'est aussi important. Et Jésus nous enseigne cela afin que nos frères et nos sœurs reçoivent la bénédiction. Luc chapitre 22 nous dit ceci, Jésus dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus a prié pour ses disciples, parce qu'ils allaient passer des moments terribles. C'était un peu avant sa mort. Et il savait dans quel état ses disciples allaient se trouver. Et Jésus priait pour eux, afin qu'ils soient protégés. Pierre allait traverser des moments difficiles. Il allait renier son maître. Judas allait vendre son maître. Donc les disciples allaient être troublés par tout ce comportement. Frères et sœurs, nous avons besoin de porter nos frères et sœurs dans la prière régulièrement. Ce verset-là m'a touché dans un moment particulier de ma vie. Et je bénis le Seigneur de ce que je suis tombé sur ce verset-là au moment où j'en avais besoin. Parce que régulièrement, il est venu dans mon esprit, sachant que Jésus a prié pour moi dans les moments difficiles que je traversais afin que ma foi ne défaille pas. Oui, nous devons prier les uns pour les autres. Et parfois, il y a quelque chose qui peut vous venir à l'esprit. Tiens, je vais prier pour un tel. Pourquoi? Parfois, on ne le sait pas. Mais Dieu a une raison bien particulière. Je vais vous raconter une anecdote. Je vous l'ai peut-être déjà racontée, mais comme je vieillis, je radote. Je peux vous répéter les mêmes choses. Mais bon, j'étais jeune, il y a des années, et j'étais en France dans un camp de jeunes, et nous étions partis à quelques-uns en balade, et j'étais avec ma voiture, et je dois préciser, je n'étais pas encore avec Bernadette, donc, et il y avait des filles dans ma voiture, et je voulais montrer que j'étais un bon pilote, et épater bien sûr les filles, vous savez, quand on est jeune, on se dit... On joue un peu au donjon. Et j'étais, donc c'était du côté du Mont Aigoual, pour ceux qui connaissent, dans les Cévennes. Et je dépasse, j'étais en montagne, je dépasse. Et une voiture, mais la route était assez étroite. Et ma voiture tombe dans une espèce de caniveau. C'était pas vraiment un caniveau, mais c'était une rigole. Et il y avait une pente escarpée comme ça. Donc avec la vitesse que je roulais, j'aurais pu faire une embardée et des tonneaux. Mais ça ne s'est pas passé. Merci Seigneur. Et nous sommes rentrés au camp, et là on dit, ça a été votre balade. Et je dis, oui, je raconte cette anecdote-là à deux personnes, à deux dames, des chrétiennes. Je dis, j'ai eu un problème, et on a eu beaucoup de chance. Elle me dit, on ne sait pas pourquoi. Mais à un moment donné, on s'est dit, les jeunes sont partis en balade, il faut absolument qu'on prie pour les jeunes. Et elles ne savaient pas pourquoi elles allaient prier, mais grâce à leur prière, je peux dire que je suis toujours là et qu'on a évité un accident. Donc voyez-vous, des fois le Seigneur nous met en tête de prier pour quelqu'un. Faisons-le à ce moment-là, parce qu'il y a peut-être un besoin que Dieu n'a pas besoin de vous révéler, mais dit, prie pour un tel, parce qu'il a besoin de ta prière et de la protection dans la prière. Et je peux en témoigner, dire, voilà, le Seigneur nous a gardé grâce, sûrement, à la prière de ces deux personnes qui ont prié pour nous à ce moment-là. Chapitre 30 du psaume 30, « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dieu entend et Dieu guérit quand quelqu'un crie à lui. » Jacques, chapitre 5, dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui ?» Enloignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés et lui sera pardonné. Oui, frères et sœurs, priez quand on est malade, priez pour les malades. C'est vrai qu'ici, nous ne faisons pas régulièrement l'onction d'huile, nous pouvons très bien la faire. Si quelqu'un désire qu'on loigne d'huile au nom du Seigneur, nous pouvons le faire, c'est biblique. Mais le Seigneur veut intervenir, même quand un frère, une sœur est malade. Prier pour les malades, c'est important. Nous croyons que Dieu peut intervenir, soulager et même guérir. Prier pour qui? Eh bien, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Nous devons prier pour nos autorités politiques. Quel que soit le parti, hein, priez pas seulement pour ceux qui sont socialistes ou pour l'OMR, hein, priez pour tous. Le Seigneur nous demande de prier, c'est un ordre. Oh, ça nous fait peut-être rire des fois, mais nous devons prier pour les autorités politiques et religieuses de nos pays, afin que nous menions une vie tranquille, dit l'apôtre Paul. Nous avons la liberté d'expression, la liberté religieuse dans nos pays. Jusqu'à quand? Nous ne le savons pas. Mais pensons spécialement à nos autorités politiques, spécialement ces temps-ci, ces temps d'élection. Nous savons tous les partis extrémistes qui se lèvent, toutes des idées parfois qui vont à l'encontre même de la parole de Dieu, que nous puissions élire des gens qui sont dirigés par Dieu. Ce n'est pas toujours évident, mais Dieu peut mettre sa main sur nos autorités. Nous le croyons. Intercédons vraiment pour eux. Car c'est vrai que nous avons des problèmes. Les gens ont un désintérêt complet de ce qui est religieux, il faut le reconnaître. Mais nous demandons que le Seigneur touche ces gens afin que nous puissions conserver cette liberté de pouvoir nous réunir. Prions pour les autorités communales de cette commune qui jusqu'à présent nous laissent gracieusement ce local, que nous puissions continuer à bénéficier de ce cadeau. On en a parlé pendant la réunion d'Assemblée générale. Mais c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Éphésiens chapitre 6, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Priez pour l'Église en général, afin qu'elle progresse, qu'elle soit fidèle. Nous voyons tant de choses d'hérésie dans nos églises. On veut aller avec l'air du temps, alors on veut introduire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Priez pour notre communauté, priez pour chaque membre, pour les différents projets que nous pourrions lancer. Priez pour les responsables de nos églises et les responsables de votre église, ceux qui président, ceux qui prêchent. Nous avons besoin de votre soutien afin de pouvoir parler de la part du Seigneur et nourrir le peuple. Que nous puissions vraiment apporter le message clair de l'Évangile. Vous savez, prêcher, c'est peut-être facile pour certains, mais ça demande du temps, de la recherche, de la prière, des temps de trouver vraiment ce que le Seigneur veut communiquer à son Église. Priez pour la communauté de Blégy. Priez pour nos familles, pour nos enfants qui ont besoin du salut. Pour nos voisins, les collègues de travail. Vous voyez, c'est très vaste. Pour qui prier? Nous avons du travail, n'est-ce pas, dans la prière. Luc chapitre 6, verset 27. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Oh, quel verset terrible. On voudrait l'effacer. Priez pour vos ennemis. C'est plus dur. Priez pour ceux que nous n'aimons pas. C'est vrai que nous aimons tout le monde. Hein? Je ne suis pas certain. Ou ceux qui ne nous aiment pas, qu'on essaye d'aimer, il y en a qui, certains, ne nous aiment pas. Moi, j'ai un collègue avec qui je suis très bien entendu et qui m'a avoué, quand je t'ai vu arriver au garage, je ne t'aimais pas. Ah non, je ne t'aimais pas. J'avais un genre que je n'aimais pas. Et nous sommes devenus de très bons amis. Voyez-vous, c'est pas facile de prier pour quelqu'un qui ne vous aime pas. Que vous sentez que ça, le courant ne passe pas. Bien sûr, c'est plus facile de prier pour ceux qui nous sont chers, qui nous apprécient. Mais Jésus avait prié pour ses ennemis. Imitons-le. Troisième point, où devons-nous prier? Y a-t-il un endroit pour prier? Je dis oui et non. Je vais vous expliquer. La femme samaritaine, par exemple, a soulevé cette question à Jésus, car certains chrétiens s'attachent à l'endroit où on doit absolument prier. Chapitre 4 de l'Évangile de Jean, verset 19, là, dans ce discours avec Jésus, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Pour comprendre parfaitement ces versets, il faut reprendre l'ensemble du passage et voir la situation. Jésus voulait aller de Judée en Galilée, et le chemin passait par la Samarie. Mais les Juifs méprisent les Samaritains, et ceux-ci détestent les Juifs. Ça n'a pas fort changé dans cette région-là. On aime ou on n'aime pas. Cette animosité remonte à des siècles, à l'époque du schisme entre Juda et Israël, et ne s'est guère atténuée. Les Juifs ont toujours adoré au temple de Jérusalem, et les habitants du royaume du Nord ont créé leurs propres autels. Ils ont adoré aussi bien l'Éternel, ça rarement, que les dieux païens, presque toujours. Les uns et les autres sont attachés à leur tradition, et si les Juifs ont tous les manuscrits de l'Ancien Testament, ils n'en tiennent compte que pour se quereller, et bien peu pour adorer Dieu comme ils le désirent. Les Samaritains, eux, avaient sans doute connaissance de ces écrits, mais ne devaient y attacher qu'une importance relative. Et la femme commence par se rendre compte que Jésus est un prophète et qu'il vient de Dieu. C'est pourquoi elle lui demande de trancher cette antique querelle qui oppose les Juifs et les Samaritains. Où faut-il adorer Dieu? Et Jésus lui répond catégoriquement que le lieu où l'on adore est sans importance. Ce qui importe à Dieu, c'est d'avoir des adorateurs dont l'esprit est tourné vers Dieu et qui désirent connaître la vérité. Pas de ceux qui ont l'esprit tourné vers les querelles partisanes. Et ils ne veulent connaître les choses que pour avoir une raison de plus en plus de mépriser les autres. Dieu est esprit. Et l'esprit de l'homme doit se soumettre à l'esprit de Dieu et à la vérité. C'est là l'adoration que Dieu désire. Le prophète Daniel, quand il a entendu qu'on ne pouvait plus prier Dieu, qu'on ne devait adorer que le roi, il montait dans sa chambre. Voilà un autre endroit où on peut prier. Et trois fois par jour, il ouvrait grand la fenêtre et on le voyait prier en direction de Jérusalem. Il y a un autre endroit où on peut prier. Luc 24, chapitre 24, verset 52. Les disciples, après avoir adoré Jésus, se retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Nous pouvons prier aussi ici, dans ce lieu. Le dimanche, quand nous venons. Le mardi, quand il y a réunion de prière. Mardi prochain, il y aura réunion de prière. On peut prier ici. Il y a des communautés où la porte est ouverte 24 heures sur 24. Afin de prier. Évidemment, ça c'est impossible chez nous. Mais Dieu veut que nous soyons de véritables adorateurs, où que nous soyons. Nous pouvons prier Dieu au volant de notre voiture. Et je crois qu'il n'y a rien dans le code de la route qui nous a interdit de prier. J'ai rien vu. Hein. Donc, on peut prier au travail. Jonas, par exemple, Jonas a prié dans le ventre du poisson. C'était un endroit bizarre pour prier, mais Dieu l'a obligé à prier dans ce ventre. Jésus a prié sur la montagne. Jésus a prié sur la croix. On peut prier quand nous sommes en vacances, sur la plage. Mais peu importe où que nous soyons. Dieu veut que nous soyons de véritables adorateurs, des chrétiens vrais et engagés dans le service de la prière. Dernier point, comment devons-nous prier? Il y a la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est une prière très complète que le Notre Père. Le Notre Père englobe tous les besoins que nous pouvons connaître. C'est une prière complète. Oui, nous pouvons prier le Notre Père. Il y a aussi une autre façon de prier. Luc chapitre 18, il y a deux hommes qui montent pour prier, un pharisien et un publicain. Dans quel de deux personnages nous retrouvons-nous ce matin? Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Là, vous montrez votre voisin. « Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant, « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a deux façons de prier. La manière du pharisien orgueilleux est suffisant, rempli de mépris pour les autres, parce que moi je pratique, moi je fais, moi je dirige, moi je suis le meilleur, etc., etc. Et il énumère toutes les œuvres qu'il fait à Dieu, comme si Dieu ne le voyait pas. Mais il connaît aussi son cœur. Voyons notre cœur quand nous travaillons pour Dieu, dans quel but nous le faisons, avec quel esprit nous faisons. Seigneur, je te montre toute ma religiosité et c'est pour cela que je me permets de te prier. Ou alors vous êtes comme ce publicain qui dit, Seigneur, je suis qu'un pauvre type. Je n'ai rien de bon en moi. Mais je me présente devant toi avec mes défauts, avec mes problèmes, avec ma vie misérable. Je me reconnais vraiment pécheur devant toi. J'ai besoin de ton pardon. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur, ce matin. Et alors là, nous pouvons commencer à prier, demander nos besoins. Et je termine par ce dernier verset. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. L'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. » Peu importe le lieu où nous prions, mais il est indispensable que nous puissions élever des mains pures. Nous devons entrer dans la présence du Seigneur dans un esprit de pureté. Nous devons demander, comme ce publicain, pardon pour nos fautes que nous pouvons commettre volontairement ou involontairement. Nous devons nous présenter devant Dieu dans un état de pureté, de sainteté. Demander à Dieu qu'il nous purifie. Nous pouvons prier à genoux, assis, couchés, en élevant les mains. Nous pouvons prier en silence, à haute voix ou à voix basse. Ne jugeons pas dans nos assemblées. On dira, tel ne prie jamais tout. Ben oui, c'est son problème. Mais s'il prie, c'est ce qui compte. C'est Dieu qui doit entendre sa prière. Bien sûr, ça fait plaisir quand quelqu'un prie tout haut. Mais ne méprisons pas, ni ne jugeons pas ceux qui prient tout bas, qui ne prient pas haute voix. Dieu connaît les cœurs. Il n'y a pas de formule, frères et sœurs, ou d'endroit pour prier. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous présenter dans un état de pureté devant le trône de Dieu. Que ce matin, nous puissions comprendre quelles sont nos motivations quand nous prions. Qu'importe pourquoi tu pries. Qu'importe pour qui tu pries. Qu'importe où tu pries. Qu'importe comment tu pries. Mais l'important, c'est d'avoir une vie de prière. C'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons des adorateurs, des intercesseurs. Et les sujets sont nombreux, nous l'avons vu. Oui, notre Dieu veut que nous soyons de vrais adorateurs. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, oui, vraiment, apprends-nous à prier selon ta volonté, c'est vrai, à mieux prier, à prier pour les besoins d'autrui, pour les besoins de ton Église, mais que vraiment nous puissions prendre ce temps de prière, d'intercession pour le monde, pour l'Église, pour nos frères et sœurs, pour nos familles, que tu n'aies aucun reproche à nous faire plus tard en nous disant « tu n'as pas pris le temps de prier ». Que nous puissions revoir nos façons de prier, notre manière, et que l'Église puisse vraiment connaître des victoires parce qu'elle a appris à prier. Amen.